18h01 sur Radio Campus Paris. Nous sommes le lundi 15 mai et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bienvenue pour La Relève, une demi-heure avec un jeune talent comme tous les 15 jours. Aujourd'hui au programme, eh bien, la Hongrie, le piano, mon invité, c'est assez simple, et musicien. Bonjour Rodolphe Mangui.
Bonjour.
Vous êtes un jeune, très jeune pianiste, même je peux le dire, je crois très jeune. Vous n'avez même pas 30 ans. Vous publiez chez Mirare un premier CD, un premier album, je ne sais pas comment on dit parce que...
Bon, un premier disque,
un
premier album.
Disque, encore, on parle encore de
on
disque.
On peut tout dire.
Et il est consacré aux rhapsodies hongroises. Alors pour commencer, je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent sont des mélomanes accomplis, mais je pose quand même la question, qu'est-ce qu'une rhapsodie?
Une rhapsodie, en fait, c'est une pièce assez libre, une pièce rhapsodique. Alors là, dans le cas du CD, il y a trois rhapsodies hongroises de Liszt, donc qui sont assez inspirées du folklore tzigane. Donc c'est des pièces avec une forme assez libre, assez virtuose,
par
assez démonstrative.
Des formes qui sont plus réglées, plus...
Oui, qui c'est pas comme une sonate par exemple, qui s'inscrit dans quelque chose de très classique, très très rigoureux. La rhapsodie offre plus de liberté, de fantaisie.
Pour celui qui l'écrit, mais aussi pour celui qui la joue.
Surtout pour celui qui l'écrit, pour celui qui la joue, du coup, on a une trame qu'on doit respecter.
Mais malgré tout, il y a quand même un peu de liberté qui est donnée.
Stylistiquement, oui, comme comme ça fait appel à un imaginaire de l'improvisation de cigane, d'une certaine orchestration, d'instruments. Issus, oui, des orchestres tziganes, des choses comme ça.
Musique populaire.
Exactement. Et du coup, ça offre un grand champ de recherche de couleurs, de musique, de style pour l'interprète.
Alors, j'ai lu dans le dossier de presse qui accompagne le CD que vous aviez un large répertoire qui va de Mozart à Messiaen ou Boulez. Alors, j'imagine encore après. Alors, pourquoi commencer avec ces compositeurs-là pour votre premier CD? Parce que là, quand même, vous arrivez sur la scène et vous affirmez avec... avec ces musiciens-là, on va quand même les citer, Liszt, Bartók et Kodály.
En fait, c'était, je ne me suis pas tant posé la question que ça pour le premier disque. Ce problème-là, en fait, il est venu dans un chemin assez naturel, où c'est un moment où je me suis senti prêt à enregistrer. Et disons que c'est des compositeurs qui m'accompagnent depuis un petit moment aussi, qui, par exemple, dans le cas de Liszt et Bartók, je les avais pas mal travaillés quand j'étais au conservatoire supérieur. Et... il y avait une sorte d'évidence qui s'est créée pour enregistrer ces compositeurs-là.
C'est ceux que vous préférez à ce moment-là?
Pas forcément, mais c'est... Je ne saurais pas comment dire, en fait. C'est quelque chose d'un peu, oui, un peu mystérieux qui s'était là dans un coin de ma tête et je me suis dit que... Bon, après, il y a aussi le fait que quand c'est un premier disque, il y a certaines pièces auxquelles on ne va pas s'attaquer de suite parce que c'est... par exemple, je sais pas, des sonates de Beethoven ou des choses comme ça, parce qu'il y a une énorme discographie déjà présente, c'est des Everest du répertoire et c'est pas que ça serait ambitieux pour un
vous
premier
dites ça,
CD,
mais on va écouter tout à l'heure un extrait où il faut quand même une certaine dextérité et une certaine technicité.
Oui, non, ça reste, c'est pas du tout pour dire que c'est des pièces qui sont moins bien que les sonates de Beethoven, mais
vous voulez dire qu'il y a le poids de tous ceux qui l'ont déjà joué et que là vous sentez plus libre.
Ça. Oui, peut-être. Et du coup, ça s'est bien inséré. Et par exemple, dans le cas de Kodály, j'en avais pas beaucoup joué avant. Et en fait, ça s'est j'étais assez axé sur Liszt et Bartók et j'étais en train de chercher d'autres compositeurs hongrois. J'ai découvert cette pièce-là, Les Danses de Marotsek, que je ne connaissais pas du tout. Et donc je suis tombé complètement amoureux et je me suis dit que justement c'était intéressant d'associer Kodály à Bartók, s'ils ont fait tous les deux des recherches sur la musique de leur pays, la Hongrie, avec Liszt, qui est un autre compositeur hongrois mais qui n'a pas du tout la même approche de l'imaginaire populaire hongrois. Et du coup, je trouvais ça intéressant de les coupler ensemble.
Vous avez l'esprit de contradiction en général?
Ça dépend.
Non, parce que je vous demandais pourquoi pas Brahms. Si on parle de musique hongroise, les danses hongroises de Brahms, c'est...
Oui, mais par exemple, oui, il y avait aussi il y a les rhapsodies.
Alors ça joue pas au piano,
mais,
ça peut-être.
Les danses hongroises, c'est plutôt quatre mains aussi, ouais. Orchestre et quatre mains. Ouais. Après, il y a les rhapsodies aussi qui sont possibles, mais c'était plus, oui...
pas envie. Vous avez le droit.
Non, mais le choix, c'est fait naturellement vers ces compositeurs-là.
Parce que, alors, en lisant et puis en écoutant l'ensemble de ce que vous proposez est très pensé. On l'entend bien déjà là en vous écoutant. Hein. Vous avez réfléchi, vous avez mis en rapport des musiciens. J'avais presque l'impression que c'était comme une thèse de fin d'études, presque. Hein. Vous avez l'équivalent d'un travail de recherche ou de ce que ferait quelqu'un qui préparerait une exposition, qui met en rapport des tableaux.
Mais je pense que chaque musicien, au moment d'enregistrer un disque, peut-être a ces questionnements-là, parce que c'est on grave quelque chose, on présente quelque chose au public qui ne bougera pas, qui restera là. Et du coup, on a, je pense, ce cheminement de pensée, de se dire qu'est-ce qui a du sens d'enregistrer maintenant. Donc forcément, ça amène beaucoup d'introspection, je pense.
Et vous disiez tout à l'heure, par exemple, que Liszt et Bartók n'avaient pas le même rapport à la musique traditionnelle.
C'est-à-dire, oui, justement, Bartók et Kodály ont fait beaucoup de recherches dans leur pays pour...
Liszt est allemand, c'est ça.
Il est hongrois aussi. Ouais. Hongrois aussi. Mais Liszt a vécu un peu plus tôt. Et au début du XXe siècle, Bartók et Kodály sont allés dans les campagnes hongroises pour récolter justement les chants populaires et faire un vrai travail de recherche pour savoir ce qu'était la... pour mettre sur papier vraiment ce qu'était la réelle musique populaire, ce qu'on chantait dans les villages de Hongrie. Et Liszt, dans le cas des Rhapsodies hongroises, c'est plus un fantasme en fait de ce que c'est. Il n'a pas fait vraiment ce travail de recherche-là. Et c'est plus un souvenir des orchestres tziganes qu'il a pu entendre dans sa jeunesse ou au cours de ses tournées qui sont passées là, qui n'est pas réellement la vraie musique populaire hongroise.
Alors on a déjà beaucoup parlé, on va vous écouter maintenant dans le premier mouvement de la sonate pour piano, on ne doit pas dire comme ça, SZ on dit ça comme ça ?
Oui, bon, juste sonate pour piano.
Ah voilà, sonate pour piano 80 de Bartók, le premier mouvement, on va écouter. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
Qu'est-ce que je peux en dire ? C'est une œuvre qui est intéressante, qui a été écrite dans une période très riche pour le piano de Bartók. La suite en plein air, qui est aussi dans le CD, a été écrite à peu près à la même période. Il y a les deux premiers concertos pour piano aussi. Et c'est une époque de sa vie où il a énormément cherché dans l'instrument, il a développé des choses. Et c'est assez représentatif de cette dizaine d'années-là. Ça a été écrit en 1926.
Et là, vous allez pouvoir écouter. Vous allez voir que c'est ça en voix, hein, comme on dit. Thank you. Voilà, c'était un extrait de la, j'allais dire une bêtise, de la sonate pour piano de Bartok. Je vous demandais en l'écoutant, ça vous démange pas de jouer? Vous avez pas envie de taper sur la table, de refaire les notes?
À l'instant T, non, mais bon, quand on entend une pièce qui nous plaît, on a toujours envie de la jouer. Mais après, en sortant d'une journée de travail sur le piano, pas nécessairement.
Et comment c'est agréable de se réécouter? Enfin, c'est pas la question, est-ce que c'est agréable? Au contraire, est-ce que c'est pas trop désagréable de se réécouter? Est-ce qu'on voit pas que les défauts?
Bah, ça dépend. Dans le cas du CD, avec mon ingénieur du son, enfin mon directeur artistique, Léonard van der Hagen, on a fait le montage tous les deux, donc je commence à bien connaître l'enregistrement. Donc c'est pas que ça c'est pas dérangeant, mais en fait je l'ai tellement en tête que je me pose même plus la question sur ça. Après il y a d'autres fois j'entends des enregistrements de moi en concert où sur chaque truc je me dis ça va pas, il faut le travailler. Donc ça dépend, c'est pas la chose la plus agréable du monde non plus.
Parce que là c'est le moment où vous avez lâché, de toute façon vous pouvez plus rien y faire, il est comme ça. Hein.
Oui, là le bébé est dans la nature.
Justement, enfin pas du tout justement, on découvre qu'à l'époque il y avait des liens entre la musique, ce qu'on pourrait appeler populaire, et une musique savante. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est des mondes beaucoup plus étanches. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi, le fait que les deux communiquent peu?
Oui, maintenant, je trouve qu'il y a une grosse cassure entre ce qu'on appelle la musique savante. En plus, le mot est un peu pompeux, je l'aime pas trop, mais de la musique classique et ce qu'on appelle la musique populaire. Que ce soit de la pop, de la chanson française, du rock, etc. Et c'est vrai que c'est dommage parce que au final on fait un peu tous le même métier dans des styles de musique différents, mais c'est vrai qu'il y a cette cassure là et je pense que c'est un fossé qui est pas forcément nécessaire.
Et vous, quand vous jouiez peut-être plus jeune, on peut être plus jeune que vous, vous aimiez tout, vous jouiez un peu de tout, vous avez toujours été à jouer de la musique classique?
En fait, moi, j'ai commencé par le classique. C'est mon père qui est professeur de piano qui m'a mis à l'instrument quand j'étais petit. Et c'était quelque chose qui a été très naturel. Donc...
Okay. Dès que vous jouiez du jazz, il prenait le truc et vous le plaquiez sur les doigts?
Non, pas du tout. D'ailleurs, mes parents m'ont encouragé à essayer de prendre des cours de jazz pour essayer d'autres choses. Au final, ça me plaisait, mais pas au point pas assez pour que je le travaille sérieusement. Donc je préfère en écouter qu'en faire.
Et de façon générale, vous avez toujours continué
Moi, j'ai toujours fait du classique et c'est là où je me suis toujours épanoui. Ça a été mon chemin naturel.
Je ne sais plus, je l'ai lu quelque part, votre âge, vous êtes en 97, hein, c'est écrit, donc je peux le dire. quand on joue du classique au début des années 2000 à l'école, les autres, ils vous regardent comment?
Oh, un peu comme un extraterrestre quand même. Enfin, pas complètement un extraterrestre parce qu'on reste un enfant normal, mais c'est vrai que le fait de...
Et un adulte, a priori, j'ai l'impression. Hein. Rassurez-vous.
Oui. Mais c'est vrai que le fait, dès l'école primaire, après l'école, de rentrer chez soi pour travailler son piano et pas forcément rester avec les copains, ça peut être perçu comme quelque chose d'assez bizarre. Même au collège, après, ça continue. Donc,
Et vous étiez plus fort que ça, vous n'aviez pas l'envie parfois de... Je sais pas, d'aller les rejoindre ou de prendre une guitare électrique
pas forcément prendre une guitare électrique, mais forcément, mais après c'était ma vie à moi et ma vie normale à moi, donc c'était mon chemin à moi et j'ai jamais ressenti un manque de ça, mais c'est vrai que bon, il y a de temps en temps il y a un petit décalage qui a pu se créer
Parce que c'est aussi une vie complète, c'est quand on est jeune, qu'on est un musicien. J'imagine très tôt, vous avez passé des concours, des auditions.
Mais ça, en fait, la formation, elle commence très très tôt. C'est pas la formation. Bon, il y a la formation supérieure qui commence quand on est adolescent. On peut rentrer au conservatoire supérieur même quand on est encore au lycée et qu'on n'a pas le bac. Mais en fait, c'est pas au moment des études supérieures que la formation commence. Elle commence quand on est déjà tout petit.
Ce que je veux dire, c'est aussi vos week-ends, c'est pas que tous les jours jouer, c'est... Oui, il y a un moment, ça prend vos week-ends, ça prend beaucoup de place dans la vie.
Ça prend toute la vie, en fait c'est pas juste un métier, c'est un vrai univers, c'est une façon de vivre en fait. C'est à la fois un métier, une philosophie de vie, un univers, c'est tout mêlé, mais comme tous les métiers artistiques, je pense, demandent cette vie-là.
Vous ressentez quoi quand vous faites de la musique?
Oh, beaucoup de choses. Je saurais pas dire.
Mais c'est l'endroit du monde où vous êtes le plus heureux.
Ah oui, moi l'endroit où je suis le plus heureux, c'est sur scène derrière mon piano à jouer et à faire ce que j'aime.
et quelle que soit la gamme, là, pour le coup, de compositeurs peut être variée.
Ah oui, mais justement, c'est pour ça que... Enfin, ce qui est génial dans la musique classique, c'est qu'il y a une énorme densité de compositeurs. En plus, on a cette chance-là au piano, parce que c'est un instrument pour lequel beaucoup, beaucoup de compositeurs ont écrit. Il y a un énorme corpus d'œuvres. Et cette richesse-là, et, vous voyez, les pièces qui ont été écrites en 1700, qu'on joue au piano, d'autres qu'au XXe siècle, aussi maintenant, au XXIe siècle. Et il y a une richesse de style sans fin, sans limite. Et c'est quelque chose de très très réjouissant, très euphorisant.
Alors, c'est Christophe, pas très précis là, qui va poser une question, mais c'est pas grave. J'ai eu la chance il y a quelques semaines d'entendre une jeune femme qui jouait à une pianiste qui a été une compositrice qui a été oubliée comme beaucoup de femmes visiblement. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresserait d'aller, après avoir joué des noms comme ça très connus, d'aller chercher des compositeurs oubliés, de les remettre sur le devant de la scène?
Alors, c'est vrai que je ne fais pas forcément le travail d'aller chercher des choses que je... Enfin, des compositeurs que je connais pas, enfin, qui sont assez inconnus. Quand je tombe dessus ou que j'entends un ami jouer une de ces pièces-là que je ne connaissais pas et qui me plaît, j'ai envie de la jouer et ça m'interpelle. Après, c'est vrai que je fais pas ce travail-là de moi-même. Mais c'est vrai que maintenant on est dans une époque où justement on fait ce travail-là de rechercher des noms qu'on avait oubliés, notamment de beaucoup de compositrices, et c'est quelque chose de très très important. Et maintenant, avec ce travail-là et cette chance-là, on redécouvre des pièces qui sont merveilleuses.
Très bien, on va écouter la musique d'aujourd'hui. Ça va, ça vous fait pas peur?
Ah, mais avec grand plaisir.
Et ben alors on écoute Everything But The Girl.
Skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do. 'Cause I've always listened to you. And I'm here at your door. And I've been here before. Tell me what to do. 'Cause nothing works without you. Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose. Kiss me while the music
Voilà, c'était Nothing Left to Lose, 24 ans après le grand retour d'Everything But the Girl.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec Rodolphe Mangui qui sort un premier album qui s'appelle Rhapsody Hongroise aux éditions Mirare, car je crois que tout à l'heure j'avais oublié de les citer dans le stress du début d'émission. Ça va là, vous venez de passer les 3 minutes 52 les pires de votre vie ou vous écoutez beaucoup de musique contemporaine ?
Ah oui, mais j'essaie d'écouter de tout justement parce que il y a tellement de choses, ça serait bête de s'en priver.
Mais vous aimez ça ? Ah oui, vous n'êtes pas chez vous habillé tout en noir,
dans une ambiance romantique. Non, ce cliché du musicien classique n'existe pas.
Je tiens juste qu'à dire, qu'on a profité de la pause musicale pour rechercher la pianiste dont on parle juste avant. C'est Célia Oneto Ben Saïd et elle a redécouvert l'œuvre d'une pianiste, je crois, je ne vais pas dire parce que je ne suis pas sûr, qui s'appelle Marie Jaël et ça existe en disque si vous voulez vous renseigner. Une compositrice que l'histoire a oubliée. Donc je reviens à vous, pardon Rodolphe Mangui, sur votre compte Instagram vous critiquez les films, vous avez adoré les Fablemans de Spielberg, donc on pourra rester amis, mais vous n'avez pas trop aimé Tar de Cate Blanchett. C'est quoi, c'est parce que pour vous qui connaissez le milieu il y avait trop de clichés dans ce film?
Non, justement je trouvais que dans l'ensemble Tar retranscrit assez bien le monde classique, mais par exemple comme dans le film Black Swan sur la danse, de temps en temps pousse les curseurs très loin sur certaines choses.
White Plage sur les jazz. Hein.
Oui. Puis... Qui sont peut-être de temps en temps pas tout à fait représentatifs de la réalité de ce qu'on vit. Mais c'est pas tant pour ça que... Enfin, j'ai bien aimé le film, dans l'ensemble je l'ai beaucoup aimé. C'est plus que je trouvais qu'il y avait une rigueur, une sorte de folie pendant 2 heures qui m'embarquait complètement. Et la dernière demi-heure, je trouvais que le film allait vers quelque chose de complètement différent, qui m'a un peu complètement cassé l'expérience. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui ont justement adoré ce côté-là, et moi, ça m'avait un peu rebuté.
Vous allez beaucoup au cinéma ?
Avec la musique classique, c'est mon autre grande passion dans la vie.
Vous aimeriez faire de la musique de film ?
Alors, quand j'étais adolescent, c'était un de mes rêves. Et après, au final, en fait, Je me sens vraiment plus interprète, pianiste que...
Vous ne sentez pas compositeur?
Je ne me sens pas compositeur.
Vous ne voulez pas être le nouvel Alexandre Desplat?
Je pense que tout le monde aimerait être le nouveau Alexandre Desplat. Mais non, c'est que c'était, quand j'étais adolescent, j'avais vraiment cette envie-là en moi. Et après, c'est la vie. De temps en temps, les choses partent. Et j'aime beaucoup en écouter, pas forcément en écrire.
Et qui sont vos compositeurs que vous aimez bien? De musique de film, pardon.
Alexandre Desplat, on a de la chance en plus de l'avoir en France. Et évidemment John Williams, qui pour moi est le plus grand compositeur de musique de film et que j'associe, enfin que je mets vraiment à l'égal des grands compositeurs classiques. Il y a Bernard Herrmann aussi qui est extraordinaire, des gens comme
Herrmann, c'est le compositeur de Hitchcock, hein, c'est ça?
Oui, qui a fait 4 Hitchcock, si je dis pas de bêtises, Vertigo, La mort aux trousses, L'homme qui en savait trop et j'en ai oublié un.
Ah. Et la question pour la champion, ça peut être fatal hein, si vous en avez oublié. Hein, oui. Ça va ici.
Et Psychose.
Il n'y a rien à gagner, donc tout va bien. Mais donc vous gardez ça dans un coin de votre esprit peut-être un jour ?
Non, je pense pas, parce que c'est pas ma formation, c'est pas ce vers quoi je tends. Et je préfère vivre ça comme un passionné plutôt que comme un métier.
Vous tendez vers quoi alors ? L'interprétation.
Vers l'interprétation, oui, je suis purement un pianiste et ça occupe déjà bien mes journées et mon esprit.
Vous avez aussi réalisé une très belle bande-annonce qui est très drôle pour l'album. Je ne savais même pas qu'on faisait aujourd'hui des bandes-annonces pour les albums. On la trouve sur YouTube et moi je la mettrai sur la page internet de l'émission. On y voit un escargot géant, des chatons, la mort, mais aussi du pop-corn. C'est vous qui avez écrit le scénario ? Parce que visiblement, vous aimez l'image, ça vous amuse.
Oui, complètement. Alors, c'est pas moi du tout qui ai réalisé la vidéo. J'ai fait appel à l'agence Le Filtre, qui est une société de vidéos qui ont fait pas mal de vidéos, justement, de clips pour des CD. Notamment, il y avait les vidéos très belles pour les CD de Jean-Baptiste Doulcet ou David Cadouche. Et en fait, j'avais fait appel à eux parce que, justement, je trouve qu'ils ont un univers super fort, très visuel, que c'est des gens très créatifs. Et je trouvais qu'ils arrivaient à mettre le doigt sur la personnalité des gens et tout. Et,
vous êtes dans ça, entre l'escargot géant, les chatons, la mort et le popcorn ?
Résumé brièvement, je sais pas.
Il y a plein d'autres trucs. Il
y a plein d'autres choses, mais justement, cette petite folie créative, c'est quelque chose.
Il y a de la fantaisie, il y a une fantaisie, ce que vous revendiquez peut-être. C'est peut-être ça que vous avez voulu.
Oui, mais je pense que je leur ai un peu laissé carte blanche, mais je pense qu'ils ont envie de cerner ce que j'aimais, ce vers quoi j'allais, et ils ont réalisé un gros trip qui me satisfait complètement.
Alors comment ça s'est fait cet album? C'est vous qui êtes allé chercher Mirare en disant j'ai ces choses là à faire, ceux qui sont venus vous voir?
Alors en fait non, parce que c'est la collection future du label Mirare qui est en partenariat avec le Conservatoire supérieur de Paris. Et l'an dernier, il y avait eu un appel à projet au conservatoire justement pour réaliser ce CD. Et j'avais envoyé mon projet avec le programme que j'ai enregistré et plusieurs autres petites choses. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire cet enregistrement.
Ça se passe comment un enregistrement par rapport à un concert, par rapport à toutes les autres formes de jeux qui vont, à votre âge, j'imagine, vous avez beaucoup joué devant des jurys, devant dans des concours qui avec un stress particulier. Là, c'est autre chose. Je ne sais pas d'ailleurs combien de temps vous avez mis pour l'enregistrer ?
Alors, c'est un exercice qui est complètement différent. On a enregistré, c'était sur une semaine du lundi au vendredi.
Et là aussi, on fait plusieurs prises, on prend des bouts et on colle ou...
Oui, en fait, on dissèque un peu les choses, on fait des prises entières, des morceaux, on enchaîne les choses. De temps en temps, on va plus s'attarder sur d'autres petites choses. En fait, on essaie d'avoir beaucoup de matériel qui correspond à ce qu'on pense des pièces, ce qu'on veut en faire, ce qu'on joue. Et c'est quelque chose de complètement différent du concert.
Vous avez aimé faire ça ?
J'ai trouvé que c'était une semaine vraiment passionnante. Et en plus, c'est pas un projet solo en plus, un CD, c'est vraiment un travail aussi avec le directeur artistique, avec l'ingénieur du son. Alors là, pour cet enregistrement, c'était Jean-Christophe Messonnier et Léonard van der Hagen. Et l'entente était merveilleuse à la fois sur le plan humain et sur le plan musical, sur le travail. Et c'est quelque chose vraiment de collaboratif en fait. C'est une expérience très, très riche, je trouve.
Et justement, ils sont là comme un chef d'orchestre quand on joue avec un orchestre, c'est-à-dire qu'ils vous guident, qu'ils vous aident sur la couleur, sur ce qu'il faut trouver, ou ils sont...
Bon, en fait,
vous avez un casque, par exemple, on vous coach au casque pendant que vous jouez ?
Non, mais il y a des enceintes dans la salle où ils peuvent me dire des choses entre les prises. Non, l'idée, c'est plutôt d'arriver... L'instrumentiste arrive avec sa vision des pièces, avec ce qu'il veut en faire, et eux, ils vont nous aider à donner la meilleure version de nous-mêmes pour ça. Donc, alors, de temps en temps... S'ils ne sont pas d'accord sur des choses, ils me le disent. Là, on a eu la chance d'être assez raccord sur nos pensées musicales et de vraiment me pousser pour aller le plus loin possible dans ce que je voulais faire.
Qu'on ne se trompe pas sur vous, vous aimez aussi jouer avec les autres. Hein. Vous jouez, je crois que vous faites de la musique de chambre, vous n'êtes pas toujours seul.
Oui, j'essaie de faire beaucoup de musique de chambre aussi. Alors, peut-être que je ne sais pas si j'en fais autant que du solo, mais parce que c'est un pan de la vie d'un musicien qui est super important, parce que déjà parce que les pièces sont merveilleuses, on peut faire énormément de choses et ça serait dommage de passer juste sa vie tout seul derrière un piano et sans pouvoir partager ça avec d'autres musiciens.
Est-ce que quand ça devient un métier, on a toujours le même plaisir que quand c'était une passion et qu'on avait 12 ans et qu'on faisait ça gratuitement quoi, finalement ?
Alors c'est chose différente, mais je pense que c'est toujours le même plaisir. Moi, personnellement, j'ai l'impression de ressentir encore plus de plaisir que quand j'avais 12 ans. Mais alors, du coup, il y a plein de choses professionnelles qui viennent. On découvre l'aspect purement métier de la chose, mais le rapport au piano reste le même.
C'est quoi votre prochain défi ? C'est de faire une tournée internationale ?
Non, je ne me pose pas les questions comme ça. J'ai pas vraiment de défi. J'essaie de mener ma barque tranquillement et on verra ce qui se passe.
Alors, dans votre barque, elle va arriver le 8 juillet au Jardin de Bagatelle à Paris, où vous jouerez dans le cadre du Festival Chopin. Et puis le 1er août, quand même, le Festival de la Roque d'Anthéon, qui est quand même le lieu où on trouve tous les plus grands pianistes.
Oui, c'est un des, c'est peut-être le plus grand festival en France. En tout cas, on a de la chance d'avoir énormément de grands festivals en France avec une programmation très riche. Et c'est que la Roque d'Anthéon, c'est un festival qui fait rêver tous les musiciens. Je me sens très très chanceux de pouvoir y jouer cet été.
Et vous jouez ce disque-là ou vous avez joué autre chose ? Vous
savez pas encore ? C'est un programme liste, parce que mon concert est à l'occasion d'une journée liste. Bon, on aura plusieurs pianistes, il y aura aussi dans la même journée Gabriel Stern et Nathanaël Gouin, Tanguy de Villancourt et Jean-Frédéric Neuberger. Et moi c'est un programme liste d'une heure, avec il y aura notamment les trois rhapsodies hongroises que j'ai enregistrées dans le CD.
Eh bien écoutez, très bien, merci beaucoup d'être passé par le studio de Radio Campus Paris. Je sais pas pourquoi j'allais parler de Radio Campus Musique. Non, c'est Radio Campus Paris ici. France Musique, c'est un peu plus loin. Et merci à vous.
Merci beaucoup.
Une bonne soirée, et puis plein de belles choses à vous. Voilà, c'était La Relève, à peu près présentée par Christophe, très bien réalisée par Alison. Allez, à 19h, vous retrouvez la matinale de Radio Campus Paris. Et d'ici là, amusez-vous bien, à bientôt.